Nous sommes en compagnie de Philippe Lapointe. Philippe Lapointe, vos fonctions en information dans les médias de façon générale vous ont amené un jour à vivre une expérience assez formidable. Vous êtes allé former des journalistes irakiens en Jordanie sur la question de l'éthique journalistique.
Oui, en fait, c'était une très belle expérience. J'ai été appelé à travailler avec un petit groupe pour... c'était une séance de formation. C'était un programme qui durait un mois. Il y avait 2 semaines en Jordanie puis 2 semaines au Québec où c'était les dirigeants des médias irakiens. C'était un programme qui était parrainé par l'ONU, là, au fond, là, qui était pour, suite à l'invasion américaine, là, essayer d'implanter, entre guillemets, la démocratie en Irak. Inutile de dire que le programme n'est pas complété et que ce n'est pas un succès retentissant encore, parce que c'est extrêmement complexe. Et puis, moi, je suis passionné par ce qui se passe au Moyen-Orient. Je l'étais déjà beaucoup. Et j'ai appris une chose, c'est que je ne comprenais rien. Faut être très, très, très respectueux de ces civilisations-là qui sont extrêmement complexes, qui sont d'une richesse culturelle et historique incomparable à la nôtre. Alors, à débarquer là avec nos gros sabots d'Américains, parce qu'on n'est pas des Américains, mais des Nord-Américains, là, puis penser qu'on va leur montrer comment ça fonctionne, c'est d'une insensibilité et d'une... en fait, c'est complètement idiot de penser qu'on peut arriver à...
Alors ça, c'est une grande leçon que vous êtes allé...
Oui. Par contre, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Oui. Et je me suis fait des amis. J'ai un ami kurde avec qui j'ai encore ami, avec qui je corresponds encore. On échange beaucoup d'informations, puis on se voit de temps en temps. Il est actuellement au Kurdistan, mais qui était aux États-Unis, qui était partout. Et donc, des gens de différentes confessions, des chiites, des sunnites. Une expérience formidable.
Et qu'est-ce que vous essayez de transmettre comme valeur quand il était question d'éthique journalistique, même si on se retrouve dans un cadre culturel complètement différent, là? Il y a quand même, je présume, des assises qui sont les mêmes sur certains aspects de la fonction journalistique.
Oui, ben en fait, c'est un peu toujours la même chose. Il y a quelque chose qui est un peu... L'expérience, l'éthique journalistique, c'est un peu à la base, ultimement, c'est l'expérience éthique humaine de base, là. C'est-à-dire que c'est pas un jugement. C'est l'éthique journalistique, la vérité journalistique, entre guillemets, là, c'est un processus. C'est pas un état. Alors, c'est comme la vérité scientifique. Ça évolue avec les nouveaux faits. Tu sais... On pense qu'il s'est passé tel truc, il y a un nouveau fait qui surgit, oups, notre perspective change. Quand on commence en journalisme, on se fait dire que quand tu fais un reportage sur un accident de voiture, demande au conducteur qui conduisait une voiture, mais demande aussi à l'autre conducteur, puis demande aux témoins. Puis c'est pour ça qu'un journaliste fait une enquête, parce qu'il pose des questions à plusieurs personnes, puis essaie de comprendre la réalité. Alors, dans des conflits, dans des périodes de conflits très complexes, penser que... telle gang, c'est des méchants, puis telle gang, c'est des bons. Les Américains, c'est des bons, puis les autres, c'est des méchants. On s'entend que c'est plus complexe que ça. Il n'y a pas de bons, puis il n'y a pas de méchants. Il y a une situation extrêmement complexe qu'il faut essayer de comprendre. Et dans des situations de conflit extrême, l'être humain peut être capable du meilleur et du pire. Et le pire, on le voit beaucoup dans les guerres. On voit aussi, heureusement, du meilleur, mais... Le journaliste, ce qu'il doit essayer de faire, c'est modestement essayer de comprendre, mais aussi expliquer à ses auditeurs, puis à ses lecteurs, puis aux téléspectateurs que c'est un effort humain qu'il fait pour essayer de le comprendre, mais que ça se peut que ce soit pas une vérité absolue qu'il démontre. C'est pour ça que les chroniqueurs, on parlait des faits tantôt, du recul des faits un peu, chroniqueurs qui ont des solutions simples à des problèmes extrêmement complexes, il faut se méfier.
Brassens a un jour chanté « Mourir pour des idées ». Ça nous replonge dans une certaine forme de militantisme aussi.
C'est amusant cette chanson-là, c'est très amusant la méthode de Brassens, avec la façon Brassens, mais comment mourir pour des idées, comment ceux qui veulent faire mourir les autres pour des idées, généralement ne meurent pas pour les idées, ils vivent très vieux. Alors c'est beaucoup d'humour, mais il y a une belle vérité là-dedans.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre, et ma muse insolente abjurant ses erreurs, se rallient à leur foi avec un soupçon de réserve. Toutefois, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean Bouche d'Or qui prêchent le martyr, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire en aparté, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leur gros drapeau, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât. Depuis tant de grands soirs, que tant de têtes tombent, au paradis sur terre, on y serait déjà. Mais l'âge dort sans cesse et remis aux calendes, les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort, toujours recommencer. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Ô vous les boutefeux, ô vous les bons apôtres, mourez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la Camarde est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
Philippe Lapointe, qui est avec nous. On peut mourir pour des idées, mais des fois, c'est comme vous le dites, ce sont les autres qui meurent pour nous.
Ouais.
Puis on le constate tous les jours, malheureusement, hélas. On n'a qu'à évoquer, par exemple, le conflit en Syrie. Ça en est un bel exemple.
C'est terrible.
Je vais revenir un peu, on a à peine effleuré le sujet, votre enfance. Vous disiez avoir vécu une enfance heureuse. Quand vous regardez, puis vous avez dit aussi que vous n'étiez pas croyant, mais vous êtes très habité par, je dirais, une forme de spiritualité, une forme d'absolu, cette quête de sens qui vous habite. Quelles sont les valeurs fondamentales qui vous ont animé tout au cours de ce parcours professionnel et dans votre vie personnelle?
C'est des grandes questions. Des grandes questions hein, en ce jour d'hiver. Mais écoute, j'ai dit une fois à ma femme qui trouvait que ça faisait vraiment loser. J'ai dit, moi, sur ma tombe, j'aimerais ça que ce soit écrit. J'ai fait mon possible. Mais tu sais, en quelque part, c'était une semi-blague. Mais si je voulais être sérieux, je parlerais comme Kant, puis je dirais le ciel est, la loi morale en moi, le ciel étoilé au-dessus de moi, là. Mais je suis pas Kant, je suis pas assez fort pour ça, mais je dirais vraiment, je pense qu'il faut qu'on, comme être humain, on essaie de faire le bien le plus possible, mais en même temps, on est des êtres humains avec nos contradictions, puis on veut avoir du plaisir, puis on veut mener des bonnes vies, puis on veut, tu sais, bon. Puis,
alors, je vais vous faciliter la tâche. Si demain matin, on vous demandait d'écrire votre autobiographie, quel en serait le titre?
Ah, je sais pas, c'est trop difficile comme question. C'est trop difficile comme question. Je pense pas que ma vie mérite une autobiographie, alors je pense que ça arrivera pas. On est élevé comme on est élevé. Moi, j'ai des parents qui m'ont élevé dans un impératif de justice sociale, puis aussi de don. T'sais, c'est des gens très, très, très généreux qui ont vraiment consacrer leur vie à essayer de faire le bien autour d'eux. Forcément, ça transparaît un peu sur les enfants. Alors, je pense qu'on est devenus des bonnes personnes, là, mon frère et moi, parce qu'on avait des bons parents. Puis je pense que ça aide. Le fruit tombe pas loin de l'arbre, comme on dit. Là. Alors,
vous êtes conscient qu'il y a des gens qui, malheureusement, n'ont pas eu ce privilège, qui ont des enfances malheureuses, qui vont aussi entacher bien souvent le reste de leur existence.
Absolument. Il y a vraiment une question de destin. Puis comme les gens qui naissent aussi au mauvais endroit, au mauvais moment. Un enfant qui naît au monde en Syrie aujourd'hui, il mérite pas de vivre ça. C'est pour ça que ça prend les valeurs humaines fondamentales, la compassion, l'amour du prochain, essayer de faire le bien. C'est des valeurs qu'il faut essayer de autant que possible de faut pas perdre ça de vue, malgré la politique, malgré la misère, malgré la dureté du monde.
Une belle chanson, Serge Reggiani, Ma fille.
Oui, ben moi j'ai choisi ça parce qu'évidemment, ma fille, c'est un titre qui me... Moi j'ai une fille, puis c'est un grand amour de ma vie, puis c'est une fille, évidemment, qui est... Pas évidemment, c'est une fille extraordinaire, vraiment, 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 que j'admire beaucoup puis que j'aime de tout mon cœur. Puis quand j'écoutais ça la première fois, c'est tellement beau. Alors, bon, ça me rappelle, ça fait penser à ma fille, de qui je suis très proche d'ailleurs.
Ma fille, mon enfant, je vois venir le temps où tu vas me quitter pour changer de saison, pour changer de maison, pour changer d'habitude. J'y pense chaque soir en guettant du regard ton enfance qui joue à rompre les amarres et me laisse le goût d'un accord de guitare. Tu as tant voyagé et moi de mon côté j'étais souvent parti. Des Indes à l'Angleterre, on a couru la terre et pas toujours ensemble. Mais à chaque retour, nos mains se rejoignaient sur le dos de velours d'un chien qui nous aimait. C'était notre façon d'être bon compagnon. Mon enfant, mon petit, bonne route, tu prends le train pour la vie et ton cœur va changer de pays. Ma fille, tu as 20 ans et j'attends le moment du premier rendez-vous que tu me donneras chez toi ou bien chez moi ou sur une terrasse où nous évoquerons un rire au coin des yeux, le chat ou le poisson qui partageait nos jeux, où nous épellerons
les années de ton nom, à vivre sous mon toit, il me semble parfois que je t'avais perdu. Je vais te retrouver, je vais me retrouver dans chacun de tes gestes. On s'est quitté parents, on se retrouve amis. Ce sera mieux qu'avant, je n'aurai pas vieilli. Je viendrai simplement partager tes 20 ans, mon enfant, mon petit. Bonne route, bonne route sur le chemin de la vie. Nos deux cœurs vont changer de pays.
Fille, Serge Reggiani, Philippe Lapointe, qui est avec nous. Philippe, dans tout ce que vous avez fait comme fonction, parce qu'elles sont assez variées, mais pour l'essentiel, ce sont des fonctions de direction ou de gestion, dans un cadre pas nécessairement facile. On en a parlé la semaine dernière avec des artisans à qui on doit donner le maximum pour que leur talent puisse s'aimer. Qu'est-ce qui vous a le plus... Ce qui vous a rendu le plus heureux, tiens?
Ben, on aime ça réussir, on aime ça quand ça fonctionne bien. Là. Et c'est sûr que la télévision, c'est un milieu très compétitif. Alors, quand on se bat pour des cotes d'écoute, on veut du succès, puis on réussit, on est content. Quand on fait des bons coups comme journaliste, on est content. Quand on sort des bonnes nouvelles... Moi, je suis très particulièrement fier quand j'ai vu des gens avec qui j'ai travaillé réussir des très belles carrières, puis de pouvoir contribuer au succès d'une équipe, parce que c'est surtout la télévision, la radio, ce genre de médias, c'est tellement un travail d'équipe. Alors, c'est pas... quand tu trouves ta place dans une équipe, tu as du plaisir, puis les gens font ça avec passion, les gens travaillent très, très, très fort. Alors, faut aimer ça. C'est pas des métiers où on compte ses heures, c'est des métiers souvent qui sont syndiqués, mais je dirais clairement, vous avez été président du syndicat, fait que c'est drôle, vous savez comment les gens... C'est pas des syndicats normaux, entre guillemets, parce que c'est des syndicats de passionnés. Alors, c'est des... des syndicats de gens où... je me rappelle d'une réunion patronale syndicale où il est arrivé un gros événement, je ne sais pas lequel, un gros truc, puis là, on a dit, bon, on arrête la réunion parce que tout le monde, il faut qu'on aille travailler. Puis c'était... Il n'y a personne du côté syndical qui disait, non, c'est l'heure du break. Là, les gens, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors donc, la passion de réussir, la passion de réussir en équipe, la passion de faire des belles choses.
Et il faut le dire également, il y a eu une époque où à TVA, le temps où vous y étiez, c'était aussi un beau sentiment. On revient encore à la famille, mais les gens avaient le logo de TVA tatoué sur le cœur. C'était une grande famille.
Oui, il y avait... c'était dans l'ADN, je dirais, de l'ancien Télémétropole, puis Vidéotron avait beaucoup gardé ça aussi, forcément. Le monde a changé un peu, pas seulement TVA. TVA est une très belle organisation qui fonctionne très, très bien, d'ailleurs, dirigée par des gens de très grande qualité. Mais le monde, l'industrie a changé un peu, forcément. Là. Il y avait un côté aussi un peu paternaliste à ça qui avait ses mauvais côtés aussi. Là.
On va quand même en garder un bon souvenir. Avant de se quitter, je m'en voudrais de ne pas glisser un mot sur votre mère, parce que vous avez vécu une relation privilégiée avec les derniers moments de votre mère, qui est décédée malheureusement d'une maladie dont on entend parler quotidiennement. Il y a beaucoup, avec le vieillissement de la population, de gens aux prises avec cette maladie. On parle d'Alzheimer.
Ah oui, la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie terrible, tu sais. Oui, mais c'est quelque chose, mais mes parents, c'est un couple qui ont été très, très amoureux, mais ma mère est décédée, puis la vie continue, mais j'étais proche d'elle, puis je m'ennuie, je l'appelais presque tous les jours, comme j'appelle mon père presque tous les jours, d'ailleurs, puis on est très, très proches, là, toutes nous autres, puis je dirais que c'est ça, une chanson qu'on va écouter, là, qui dit tout sans rien dire, qui est une belle chanson de Daniel Bélanger, parce que ma mère savait évidemment qu'elle commençait la maladie d'Alzheimer, puis elle disait, je veux pas être définie par ça. Et puis c'est terrible quand quelqu'un souffre d'Alzheimer, parce que c'est comme si la personne disparaît, hein, quelque part, à un moment donné, on la reconnaît plus, de façon, ou par intermittence, on la reconnaît par intermittence, maintenant on la reconnaît plus du tout. Puis il faut pas se souvenir seulement de la personne malade, il faut se souvenir de la personne comme elle a été.
T'sais. Mais vous me disiez hors d'onde qu'elle vous a quand même laissé une belle leçon par rapport à le privilège qu'on a parfois d'avoir quelques talents, ce qui vous a fait plaisir aussi. Mais j'aimerais bien que vous puissiez juste l'évoquer, parce que je trouve que c'est plein de sagesse.
Oui, mais en fait, ma mère avait un magnifique sens de l'humour. C'est quelqu'un de très, 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 très drôle. Mais c'est une forte personnalité. C'est une Carl, alors avec une forte personnalité. Puis un jour, je me plaignais à elle. Elle était sur son lit d'hôpital. Elle était dans un moment d'intermittence de lucidité. Je me plaignais que j'en avais marre un peu. J'avais l'impression que tout le monde était après moi puis que je m'occupais de tout le monde. Elle m'avait dit, ben écoute, il y a deux sortes de monde. Il y a ceux, il faut qu'on s'occupe d'eux. Puis il y a ceux qui ont la responsabilité de s'occuper des autres. Puis toi, t'es chanceux d'être capable de t'occuper des autres. Fais ça, c'est ta job, tu sais, c'est ta responsabilité. Puis j'avais dit, c'est beau. Merci, maman, c'est correct. J'ai compris.
Mais je pense que vous l'avez bien fait à travers les fonctions que vous avez occupées. Philippe, avant de se quitter, qu'est-ce que vous voudriez, au terme de votre vie, qu'on retienne de Philippe Lapointe?
Je ne suis tellement pas rendu là. Alors,
on ne veut pas que vous y soyez.
Je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit-là.
Dans votre quête de sens, il y a sûrement une valeur où vous vous dites, ne serait-ce que de retenir cela, je partirai heureux.
Ben écoute, je pense en gros, si je peux continuer à apprendre le plus de choses possible, si je peux mourir instruit, je vais être content. Peut-être que ça va être inutile parce que je vais en être mort, mais... Je pense qu'il ne faut pas se prendre trop au sérieux non plus. Non. Là, parce qu'on a parlé de choses beaucoup très, très sérieuses. On est un peu deep. Là. Mais en quelque part, je parlais de ma mère là, qui est morte de l'Alzheimer. Ouais. C'est tragique. Mais en même temps, ce que j'en tiens, c'est que c'est une femme qui nous a beaucoup fait rire. Puis on a eu beaucoup de plaisir dans la vie. Alors, je pense qu'il faut prendre la vie avec un peu de légèreté parfois. Là.
Ben moi, je peux témoigner à tout le moins que ce que nous aurons appris à vos côtés, à vous côtoyer, ce sera immense et on aura été...
C'est gentil.
On aura beaucoup appris à travailler sous vos directions, quelles qu'elles soient.
J'espère qu'on se sera amusé un peu aussi.
On se sera beaucoup amusé. Il y aura eu du plaisir et de l'utilité.
Bon, c'est pas mal. C'est pas mal quand même.
Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, on va rendre hommage, dans le fond, à toutes ces personnes qui sont atteintes de cette maladie d'Alzheimer avec la chanson dont vous avez parlé, « Dis tout sans rien dire » de Daniel Bélanger, qui sera suivie de Serge Fiori et Seul. Ce seront nos deux chansons qui clôtureront cette émission. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
Je pense qu'on aurait pu poursuivre pendant encore un mois.
C'est gentil.
Le temps de vous dire que cette émission a été réalisée sous la supervision technique de Vital Côté, Armand Dubois au micro et à la réalisation. Soyez des nôtres la semaine prochaine, mais d'ici là, vous pouvez demeurer à l'antenne. D'autres belles émissions vous seront présentées. Au plaisir.
Si jamais on demande où je suis passé, c'est facile. Invente. Dis tout sans rien dire. Ou mens sans mentir. Dis pas surtout combien j'ai peur. De ces voix dans ma tête qui me racontent des histoires bizarres et très étranges. Je finis par les croire. Et elle me hante du matin au soir. Dis tout sans rien dire. Ou mens sans mentir. Je fais oreille chaque nuit. tout est plus réel et plus terrestre. Où je me vois tout en contrôle, aimer la vie, m'aimer aussi. Si jamais tu fais un vœu, sous une étoile filante, ferme les paupières, pense à moi ton frère. Vois comme je suis pauvre face à toi, l'âme saine et sauve. Si je suis fou comme je pense, reste là à mes côtés en silence, sans rien
ce qui ressemble à ta silhouette. Tu voudrais choisir les moments d'ivresse et laisser partir tous ceux qui te blessent, mais tu n'es plus sûr de leur adresse. J'aimerais tellement ça pouvoir t'offrir venons ralentir ta vie avec un traitement de couleur qui brille toujours à l'infini. J'aimerais tellement ça que tu me dises les mots qui chantent dans ton église, les mots qui s'échappent par le toit, qui ne parviennent jamais jusqu'à moi, jusqu'à moi. Télé, le son est fermé, juste des images embrouillées, des visages déconnectés. Devant la fenêtre, le rideau baissé, y'a plus d'hiver, y'a plus d'été, juste une lumière tamisée. J'aimerais tellement ça pouvoir t'offrir le film au ralenti de ta vie avec un traitement de couleur qui brille toujours à l'infini. J'aimerais tellement ça que tu me dises les mots qui chantent dans ton église, les mots qui s'échappent par le toit, parviennent jamais jusqu'à moi, jusqu'à moi. I'll be sei tu dentro me. Perdone, ma siete male, Dio, io l'abbraccio d'aiat. Già non è tema se può vuoto frire, le fermo ralenti de ta vie. Avec un traitement de couleur qui brille toujours à l'infini. J'aimerais tellement ça que tu me dises les mots qui chantent dans ton église, les mots qui s'échappent par les toits ne parviennent jamais jusqu'à moi.